le magazine sportif Sports Illustrated, vendu pour 110 millions de dollars américains, bien sûr.
Oui, le nom. Hein, l'acquéreur Authentic Brands Group n'a pas l'intention d'opérer le magazine, Paul. Et c'est ça qui est intéressant dans la transaction. Ce qu'on dit, on s'intéresse au nom. Mais on va laisser Meredith Corp continuer à l'opérer contre une redevance. Donc, c'est un peu comme quand, tu sais, Walt Disney a acheté la franchise de George Lucas. On a acheté le droit de l'utiliser. Donc, est-ce qu'on va faire de la radio, de la TV avec des événements signatures, des calendriers, des vêtements? Jusqu'où la marque peut-elle être vendue? Tu sais, 120 millions de personnes qui peuvent servir de base de données à revendre des produits. Donc, ça peut devenir une espèce de portail de référence de mode de vie. Et quand on regarde l'action du vendeur, Meredith Corp, tu sais, on était en janvier 2018 au-delà des 70$ l'action et là, on est à 53$. Donc, on est allé rechercher un peu de liquidité là, mais surtout peut-être l'idée de se recentrer vers d'autres activités médias et de laisser, si on veut, cet argent-là ou le profit latent, et l'encaisser tout de suite et laisser la propriété à quelqu'un d'autre. Mais c'est intéressant, parfois, une entreprise qui est mieux placée pour intégrer une marque dans son jeu. Par exemple, si tu as un groupe média, tu peux peut-être intégrer la marque dans des émissions. Tu sais, tu pourrais avoir une émission qui s'appellerait Sports Illustrated, détenue par le nouvel acquéreur, et toutes ses dérivées et générer plus de valeur. C'est à suivre.
Nouveau conseil d'administration, une nouvelle présidente, un code d'éthique renforcé. La Caisse de dépôt et de placement a dévoilé d'importants changements sur sa filiale Opéra Capital. On avait même des titres aujourd'hui, Pierre-Yves, qui parlait du grand ménage au sein d'Otera Capital.
Et quand j'entendais certains politiciens parler, il faut faire attention entre la gestion d'une entreprise puis l'idée de faire de la politique avec ça. Tu sais, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, tu n'as aucun intérêt à ce qu'il y ait de la magouille, qu'il y ait des gens qui aient des liens avec, de près ou de loin, avec le crime, même s'ils n'ont pas de lien économique, s'il y a apparence de conflit d'intérêt. C'est très important de ne pas avoir ça à la Caisse. Et on a juste remis en place de saines approches de gouvernance comme il y a à la Caisse, c'est-à-dire, bien évidemment, tu dois déclarer, par exemple, tout conflit d'intérêt. Tu dois pas te mettre en situation de conflit d'intérêt. Et on s'est blindé, on est allé chercher des experts indépendants sur l'éthique, sur les contrôles. On voulait s'assurer, dans le fond, qu'on avait une saine gestion de gouvernance et qu'on sortirait blindé de cette affaire-là. Et évidemment, toute personne qui gère une entreprise de financement qui se retrouve, veut pas impliquer dans des, à un bout ou à un autre, dans les transactions avec des gens qu'ils connaissent ou personnellement, ben, ils doivent le divulguer. C'est super important. Donc, ici, je vois pas de grand scandale. Il y aura pas de titre au Journal de Montréal sur ma chronique, là. C'est vraiment plus du titre, du type, ben, en gestion pas en gouvernance. Tu mets en place des mécanismes pour qu'il y ait pas place à l'abus. Tu sais, si tu mets, par exemple, qu'à chaque année, on va vérifier avec qui tu tiens, qui tu déclares tes relations d'affaires, tu déclares tes actifs, tu déclares tes intérêts, mais n'importe quelle grande entreprise de ce type-là va faire ça de toute façon. C'est le fait que ce soit une filiale qu'on avait peut-être passé ou tombé entre deux chaises plutôt.
Alors, nous arrivons au passionnant volet finances personnelles. D'ailleurs, aujourd'hui, 5 stratégies qui sont pas faciles à appliquer, mais qui promettent de porter fruit.
Ouais, en fait, 5-6. En fait, c'est un article de Morgan Housel. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans les dernières semaines. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer le point de vue de quelqu'un d'autre, mais qui rejoint un peu. Premièrement, il dit, non seulement accepter de vivre en dessous de ses moyens, ça on avait déjà parlé, mais il dit de mettre votre ego de côté. Parce que les dépenses qui dépassent les besoins de base sont principalement liés à l'ego et à l'ascension sociale. Je te donne un exemple. Avoir une plus grosse voiture que le voisin, avoir une maison qui en jette, avoir un chalet. Donc, avoir des actifs importants qui coûtent cher, c'est de l'ego. Avoir une plus grosse maison que tu as besoin, c'est de l'ego. Donc, mettre l'ego de côté, pas le bloc l'ego, mais l'ego, c'est une façon. Deuxième stratégie, celle-là, je l'ai trouvée drôle, puis elle me rejoint, Paul. Trouver une âme sœur d'accord avec le niveau de dépense. Il dit la meilleure façon de mettre... oui, l'auteur dit la meilleure façon de mettre de l'ordre dans vos finances, c'est d'épouser quelqu'un qui fit avec votre vision des finances. Il n'y a rien de pire que se matcher avec quelqu'un qui est complètement à votre opposé.
Ben oui.
Un divorce, c'est cher. J'ai trouvé ça drôle, je l'avais déjà parlé.
Ben, c'est drôle que tu dises ça. Regarde, Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche au monde et sa femme vient de le quitter. Elle donne la moitié de sa fortune.
Ouais, mais il faut dire qu'il y a 25 ans de million, il y avait quand même une construction.
Je pense qu'il était mal matché.
Stratégie 3, Paul, éviter les problèmes pour commencer. Et il fait un parallèle, tu sais, on peut faire un parallèle en fait avec le poids. Tu sais, si tu prends de mauvaises habitudes alimentaires, tu vas prendre un petit peu de poids normalement. Donc, c'est plus dur maigrir que de tenir un régime ou une façon de vivre quotidienne. Ben, il dit que les finances, c'est un peu ça, tu sais. Une des raisons pour laquelle c'est si dur que les gens cherchent tellement des façons de s'enrichir de façon mirobolante, c'est parce qu'elles ont du rattrapage à faire. 4, utiliser les ressources disponibles. Ça, évidemment, la bibliothèque ou profiter du gré des gratuités. On connaît tout ça.
Ouais.
Éviter les promesses. Quand on se fait promettre des choses qui n'ont pas de bon sens, il dit « faut que tu allumes la lumière rouge », c'est là que les gens se font frauder et détruire leur valeur financière. Donc, toute personne qui vous dit « avec l'immobilier, vous ferez un 10-15%, avec ces placements, on vous rachète, garantie 15, vous allez faire du 10-12-15%, ça se peut pas. » Troisième point, ou dernier point plutôt, sixième, choisir une carrière, ça c'est drôle, j'ai trouvé un peu rationnel, choisissez une carrière qui est pas votre passion, mais qui rapporte un salaire décent. Là, les gens vont s'objecter, je sais, mais il y a beaucoup de gens qui vous disent que suivez vos passions, puis ça va vous mener loin. Mais il dit, savez-vous quoi? Ces gens-là sont souvent déjà riches ou bourgeois. C'est-à-dire que...
Oui, ils écrivent des livres qui les rendent riches là-dessus.
Non, mais c'est pas dans le fond. Quand t'es favorisé par le système, c'est facile de dire au monde, « Hey, vivez votre vie. » J'avais vu un entrepreneur québécois il y a quelques années qui écrivait dans la presse, il dit, « Faites comme moi, hein? Suivez vos passions, voyagez, puis vous réussirez plus tard. » Il avait oublié de mettre un petit bémol. Mon père avait déjà assuré ma survie, j'en avais pas de stress financier. Donc, faut suivre ses passions, oui, mais rationnellement.
En tout cas, dans les six, mon préféré, c'est matchez-vous avec quelqu'un qui est dans votre rayon d'action.
C'est-à-dire, le problème, évidemment,
non,
on choisit
qui opère à peu près comme vous, qui pense
exactement
comme vous.
Donc, mécaniquement, tu sais, c'est ce que j'ai toujours dit. Tu te rends compte dans une dette, c'est quoi ta cote de crédit? 830, moi, c'est 810, parfait.
J'adore ta technique de séduction lors du premier souper.
On va niaiser. On va arrêter de niaiser. Tu sais, cote de crap, Paul, t'es quoi ta cote de crédit? 300, OK, Charbaise, c'est pas assez. C'est très drôle.
Il y a un humoriste américain extraordinaire qui est décédé, qui avait dit « I married within my range ». Traduction, je me suis marié là, en fonction de mon rayon d'action.
De ma capacité.
J'ai pas essayé. C'est bon quand même. Within my range.
C'est honnête et humble.
Merci et à demain.